Avec votre accord, j'aimerais répondre que la question a déjà fait objet de réponse dans une partie de la conférence. Parce que la question est, par quel livre doit-il débuter la quête de la science et quels doivent être les objectifs? Je crois qu'on a répondu à cette question durant la conférence. Là.
Que faire lorsque chaque effort entrepris pour l'apprentissage n'aboutit pas toujours?
Non, premièrement, frère, j'aimerais te dire que si nous accédons à quelque bien que ce soit, cela ne peut qu'être que pure grâce de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ». Quelque bien que vous possédiez, cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le savoir qui est le plus grand bien ne peut provenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement, chers frères, lorsque tu vas apprendre, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, dans le hadith d'Abu Huraira, « Ihrif ala ma yanfa'u, wasta'in billah wa la ti'adis. » Il dit, fais l'effort dans ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah et ne sois pas paresseux. Donc, la première chose à observer lorsque nous voulons apprendre en ce qui concerne les moyens par lesquels nous réussissons notre apprentissage, c'est de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tel qu'indiqué dans le hadith précédemment cité, ne pas être paresseux, faire des efforts. Car l'apprentissage de la science ne peut n'être possible qu'à travers l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué la science comme étant du jihad. Allah dit, فَلَا تُفِيَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِمْ جِهَادٌ كَبِيرًا. Et Dieu met Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'obéis pas aux mécréants et fais-leur avec ce Coran une guerre, une grande guerre. Or, cette guerre est celle dont Allah subhanahu wa ta'ala parle lorsqu'il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Il dit, nous allons vous éprouver jusqu'à ce que nous distinguions ceux qui font l'effort et qui sont patients d'entre vous. Donc, il faut faire les efforts lorsqu'on apprend, cher frère, et te réexaminer, voir si tu n'as pas abandonné l'effort à un certain niveau. Une chose qui est bon de mentionner ici aussi, c'est que la motivation qu'on trouve dans le cœur, dans l'apprentissage de la science, dépend de la puissance de l'intention, de la force de l'intention. Plus l'intention est pure, plus on trouve de la force à apprendre et on parvient à écarter tous les écueils, toutes les causes possibles d'échec, quelque grande soit-elle. C'est pour ça qu'il est rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui l'a dit, إِنَّمَا يُؤْتَ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّتِهِ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne la science aux gens qu'en fonction de leurs intentions. C'est-à-dire que plus l'intention est pure, plus il est nourri de savoir, plus il obtient le savoir. Et moins l'intention est pure, de même, moins il acquiert le savoir. Enfin, mon frère, il faut voir les causes pratiques. Les causes pratiques qui t'empêchent d'apprendre. Car il est vrai que le savoir est important, certes, mais il est aussi vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'occupations qui peuvent empêcher d'apprendre. Donc il faut être intelligent dans le management de son temps et voir les choses qui empêchent, les causes qui ont empêché que ces tentatives d'apprentissage échouent. Et Inch'Allah, en observant ces choses et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous instruire, nous allons trouver l'intelligence et la force qu'il faut pour y arriver, Inch'Allah.
Alors, la pose souvent la semaine dernière. Je voudrais savoir comment se comporter face aux gens qui nous appellent chers. Tant simplement parce que nous détenons la base du questionnement.
Et Achim, tu lui expliques que tu n'es pas cher, c'est simple. Et qu'il t'appelle par ton nom, je crois qu'il va comprendre. Si tu l'expliques ça sagement et calmement, je crois qu'il va comprendre. Et si tu lui montres aussi que tu n'es pas content qu'il t'appelle comme ça, je ne crois pas que quelqu'un qui te fréquente est content que chaque fois que tu le rencontres, que tu ne sois pas content de lui. Donc si tu lui expliques cela, tu lui expliques que tu veux seulement que cela t'aide à être humble, je crois qu'il va comprendre et qu'il va arrêter de t'appeler ainsi, Michel.
Alors, Yacoub, si tu cherches la connaissance et tu ne comprends pas, tu fais comment? C'est-à-dire, tu apprends et tu ne comprends pas. Que dois-tu faire? Étant donné qu'Allah donne la science à qui il veut. Barakallah.
Non, il est vrai, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala donne la connaissance à qui il veut. Non. Mais jusqu'à ce que tu meurs, tu ne peux pas savoir si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de te donner le savoir ou pas. Tu ne peux pas le savoir, n'est-ce pas? Or, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé d'apprendre. Donc, premièrement, si tu dis que étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la science à qui il veut, pour te trouver une excuse d'arrêter d'apprendre, il faut écarter cette hypothèse. Il faut déjà écarter cette hypothèse. Et donc, toute la question va se concentrer autour de comment résoudre le problème de « j'apprends et je comprends pas ». Comment résoudre ce problème. Non? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, chers frères et sœurs, à son messager sallallahu alayhi wa sallam et à d'autres prophètes et concernant d'autres prophètes, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa anzalallahu ilayka al-kitaba wal-hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Il a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et en parlant de Daoud, il a dit fa atahu Allahu al-ilma wal-hikma wa 'allamahu mimma yasha. Il lui a donné le livre et la sagesse et lui a enseigné ce qu'il a voulu. Ce que nous prenons de ces deux versets, chers frères et sœurs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui enseigne à qui il veut. Donc, celui qui apprend doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui enseigner. C'est pour ça que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de dire Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Donc, il faut faire beaucoup d'invocations. C'est la première cause du succès en toute entreprise. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, avec présence du cœur, et en essayant de rassembler les causes d'acceptation de l'invocation. Comme par exemple, faire l'effort de délaisser les péchés. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala aux heures d'exaucement, comme après l'azan et avant le qama, comme pendant le dernier tiers de la nuit, comme après Asr, le jour de vendredi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, pour parler plus pratiquement, il se peut que la raison pour laquelle la personne ne comprend pas est que la personne n'a pas suivi la méthode qu'il faut. Parce que à toute chose, pour toute chose, il y a une cause et une voie. Et si la personne s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, fait l'effort tel que nous l'avons indiqué et essaie de suivre la méthode qui va du plus facile au plus difficile tel que nous l'avons montré et en faisant l'effort, en fuyant la paresse, il se peut, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce problème trouve résolution.
Alors, Kalofi, je n'en sais rien à propos du port de la bague.
De la bague?
Aïe.
Si la personne demande si c'est permis, non, c'est permis. À condition que ce ne soit pas en or.
D'accord. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ce sentiment d'orgueil et de fierté qu'on ressent éventuellement, lorsque l'on suscite de l'admiration dans le cœur des gens,
نعم. Dans le Sahih, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. Il dit: l'on acquiert le savoir qu'en faisant l'effort d'apprendre. Et l'on acquiert la douceur qu'en faisant l'effort d'être doux. Et dans un autre hadith, il dit: ومن يتصبر. Dans le Sahih Bukhari, un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, il dit: man yatasabbar yusabbirhu Allah. Et quiconque fait l'effort de devenir patient, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à devenir patient. Pourquoi je mentionne ces hadiths? Pour dire que tout bon caractère enseigné par la religion ne peut être accessible qu'en faisant l'effort de chasser de son cœur ce qui est contraire à cela, et en faisant l'effort dans le sens qui convient à ce caractère. C'est-à-dire de chasser cela de son cœur lorsqu'on ressent cela, et de faire ce qui nous aide à être humble. Par exemple, ce qui a été cité du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une œuvre qui l'aide lui-même, qui aide l'homme à être humble. C'est-à-dire lorsque tu vois ce qui t'aide, l'œuvre qui te fait sentir petit, tu l'accomplis. Par exemple, prendre la chaussure de quelqu'un qui l'a mise à la mauvaise position. Par exemple, saluer les enfants quand on passe. Et ceci est cité dans certains livres de hadith, dans le chapitre de l'humilité. Dans certains livres de hadith, on a cité. J'ai oublié quel livre exactement, je crois Riyad al-Salihin. Non, dans Riyad al-Salihin, l'imam al-Nawawi a cité dans le chapitre de l'humilité le hadith de Anas qui dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait devant des enfants, il leur disait assalamu alaykum. C'est-à-dire que les œuvres qui nous rappellent l'humilité nous aident à être humbles. Ceci sont des voies pratiques qui nous aident à acquérir ce trait de caractère, tout en gardant à l'esprit que tout bien que nous recherchons, il faut premièrement s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation. Non.
Barakallahu fik. Yaqul, si ton père t'envoie acheter la bière, comment dois-tu te comporter?
Nous avons promis de nous répondre aux questions qui concernent la conférence. Mais cette question, il y a beaucoup de malentendus. En ce qui la concerne, l'on dit par exemple, ce qui n'est pas vrai, que le prophète Ibrahim a.s. a pris des idoles de son père et allait les vendre en disant: qui achète ce qui ne lui sera pas utile. Ceci n'est pas vrai. Ce sont des choses qui sont rapportées dans des livres de contes des gens du livre, les juifs et les chrétiens, et qui n'est pas vérifiable du point de vue de la science des hadiths. Cependant, il est établi que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la ta'ata innama ta'atu fi ma'ruf. Il a dit: l'obéissance n'est permise que dans le bien. Ainsi, s'il est obligatoire d'obéir à son père, il n'est permis d'obéir à son père que dans ce qui est conforme à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'enfant peut être une cause de guidance de son père. Donc si ton père t'envoie ou te demande de faire quoi que ce soit qui est contraire aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais l'effort de parler à ton père avec l'humilité qui convient au discours de l'enfant vis-à-vis de son père, et essaie de lui expliquer que celui qui vous a créé, lui et toi, est celui devant qui vous serez ramené et jugé, et celui qui a été la cause pour que ce soit lui qui est ton père, celui-là a interdit l'alcool. Et donc, par obéissance à celui qui vous détient, vous deux, tu ne peux pas accepter de lui acheter de l'alcool. Voilà.
grâce à nous. Comment faire pour pratiquer ta religion à sa juste valeur?
Encore une fois, cette question n'est pas dans notre sujet. Et moi, je peux te dire déjà que moi, je ne pratique pas ma religion à sa juste valeur. Donc, que ce soit moi qui réponds à une telle question, c'est un peu lourd, en fait. Cependant, nous pouvons nous rappeler les voies par lesquelles nous pouvons pratiquer ce que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce qu'il a dit « cette guidou wa paribou ». C'est-à-dire, faites l'effort d'être juste et de vous rapprocher le plus de la justesse. Non. Et les voies de cela, chers frères et sœurs, c'est d'abord l'apprentissage de la science. Bien entendu, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala et en remettant à lui. Ce sera la cause première de tout bien tel que nous l'avons indiqué tout à l'heure. Ensuite, apprendre la religion, nous inspire cette lumière que nous avons évoquée et nous montre comment elle nous permet de distinguer les voies du bien des voies du mal. Et donc, de nous comporter conformément à notre religion. Non. Mais une chose que nous oublions souvent, chers frères et sœurs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous éprouver. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali, wa ja'alnahu samian basira. Nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée afin de l'éprouver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous éprouver et nous a promis que la voie du bien sera difficile. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, en critiquant l'homme, il dit « فَمَا اقْتَحَ مَا الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَقْقُ رَقَبَ أَوْ إِطَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَزْغَبَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَقْرَبَ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الله سبحانه وتعالى critique l'homme en disant que l'homme refuse de choisir la voie difficile. Non, que l'homme refuse de choisir la voie difficile. Et il dit, c'est quoi la voie difficile? C'est de nourrir un orphelin ou un pauvre. Non. Ensuite, de faire l'effort d'être parmi ceux-là qui ont la foi et qui s'enjoignent la patience, l'endurance et s'enjoignent la miséricorde entre eux. Ce que nous voulons indiquer ici, c'est que l'homme ne peut pas suivre la voie du bien sans faire la guerre à sa propre âme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi » Quiconque fait l'effort, il ne fait l'effort que pour sa propre personne. Que pour son propre avantage, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala a promis de ne guider que ceux qui font l'effort. Lorsqu'il a dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا et ceux qui font l'effort pour notre cause, nous les guiderons vers nos voies. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne guide que ceux-là qui font l'effort pour se mettre sur la voie du bien. Et Allah azza wa jalla a même dit que malgré que c'est lui qui a égaré les polythéistes du temps du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّ وَهُمْ مُعْرِضُونَ » Il dit « Si Allah subhanahu wa ta'ala avait vu en eux quelque bien que ce soit, il leur aurait fait entendre la révélation. Seulement, s'il les avait fait en temps, ils se seraient détournés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a égarés parce qu'ils n'avaient aucun penchant vers le bien. C'est pour ça que celui qui a le penchant vers le bien et fait l'effort dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala le guide dans la voie du bien. Allah subhanahu wa ta'ala le guide tous dans la voie du bien.
Amen. Comment purifier nos cœurs pour mieux comprendre la science de notre religion?
Alors, ça va. C'est ça, c'est ça. 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 C'est ça
if I give me a shot. D'accord. Lorsqu'on apprend, on doit commencer par les choses plus importantes. Lesquelles? Ceci a précédé. Quelles peuvent être les œuvres d'apprentissage du savoir? Quelles peuvent être les œuvres d'apprentissage du savoir?
Sincèrement, je n'ai pas compris la question. Si la personne peut répéter la question d'une autre façon, je n'ai pas compris ce que cela voulait dire.
Et je demande comment apprendre la chanson en arabe.
Je ne dis pas chanter en arabe.
C'est d'accord, ça est assalamu alaikum. Lorsque vous parlez de la science, est-ce que ça veut dire que la seule science qui mérite une attention particulière est la science religieuse? Quelle est la place des autres sciences?
Non, c'est pas ce que ça veut dire. Deuxièmement, quelle est la place des autres sciences en fonction du besoin qu'on a envers cette science? Ainsi, une science, même si elle n'est pas religieuse, peut être obligatoire ou surérogatoire ou interdite ou bien détestable. Non. Par exemple, si l'on ne peut se soigner, ce qui est obligatoire, qu'en apprenant la médecine, alors l'apprentissage de la médecine est obligatoire. Donc l'apprentissage de la médecine, par exemple, est une obligation communautaire, c'est-à-dire qu'il est obligatoire que certains gens de la communauté apprennent la médecine. Parce que l'on ne peut se soigner, ce qui est obligatoire, d'un certain point de vue, parce qu'il y a divergence parmi les savants sur... Est-ce qu'il est obligatoire de se soigner, ou surérogatoire, ou détestable, ou... C'est un débat parmi les savants. Mais puisque le professeur a dit « Tadawa, voilà le tadawa de haram », soignez-vous, mais ne vous soignez pas avec ce qui est interdit, beaucoup de savants ont dit que se soigner est obligatoire. Puisque cela est réalisable en apprenant la médecine, l'on est obligé d'apprendre la médecine. Puisque les terres de l'islam ne peuvent se défendre de l'agression des non-musulmans qu'en apprenant les sciences de la guerre. Par exemple, les sciences de fabrication des armes qui sont conformes au mode de guerre d'aujourd'hui, il est obligatoire d'apprendre ces sciences. Quand par exemple, nous ne pouvons, nous autres musulmans, réaliser le fait que nos soeurs et nos épouses n'accouchent qu'auprès des femmes, qu'en ayant des hôpitaux à nous musulmans, ce qui n'est possible que si des femmes spécialisées apprennent la médecine dans cette spécialité, alors apprendre la médecine dans cette spécialité est obligatoire. Donc en fonction de la finalité de ce pourquoi on apprend la science, le jugement change. Naam, c'est ça la réponse en fait. Et j'aimerais mentionner que ceci n'est pas ma réponse à moi, et que ce que j'ai dit, je l'ai lu dans un livre de Gérard Lofermi, je ne me rappelle pas lequel, même si ceci est connu des règles de la charia, sauf que lorsqu'on cite des savants, cela a plus de poids dans le cœur des gens. Donc ceci, je l'ai lu d'un livre de Charles Lafourmi, je ne me rappelle pas lequel.
Yacoub, est-il conseillé à un musulman ou une musulmane de manger une viande égorgée par un voyant ou un marabout sans connaître le pourquoi cette viande a été égorgée?
Non, cela n'est pas permis parce qu'il est connu que ces gens égorgent les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, il y a au fisqal ou hilla li ghayrillahi bihi. Ou bien une perversité qu'on a égorgée pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est possible, tel que la question l'indique, que la personne l'ait égorgée pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais puisqu'il y a déjà une certaine ambiguïté dans cette personne, il est mieux de se capter de ce qui est égorgé par la personne, parce qu'il y a probabilité qu'en fait cela soit de l'ordre de l'interdit. Non.
Qui est considéré réellement comme étudiant en sciences islamiques?
Premièrement, j'ai entendu un savant qui est Cheikh Sari Ibn Abdullah Muhammad Al-Uzaymi, qui est actuellement dans le conseil national saoudien des grands savants. Il disait quelque chose qui est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais vidé un temps des savants qui expliquent leur religion aux musulmans. Et ceci est conforme au dire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est que voilà la parole. Il ne cessera jamais d'y avoir dans ma communauté un groupe de gens qui sont sur la vérité et apparents sur la vérité. Ainsi, il y a toujours des savants connus comme étant des savants dont la qualité des savants, dont la qualité des savants ne fait aucun doute parmi les musulmans. Les étudiants en sciences religieuses sont ceux-là qui sont connus comme ayant étudié auprès de ces savants, soit dans leurs assises, soit dans les institutions qui ont été établies par ces savants, et on enseigne selon la méthode de l'islam de la sunna qui a été établie dans ces institutions comme méthode d'enseignement. Voilà ce qu'on peut considérer comme étudiant en sciences islamiques.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors vous le comprenez, mettez cela dans vos comptes, dans la parole du samedi. Quels sont les comportements d'un étudiant dans une affaire de science?
Ceci est un sujet qui est traité dans les livres d'éthique du savoir. Et seulement cette question dans ces livres fait l'objet de plusieurs chapitres. Donc, il n'est pas possible d'en parler en quelques minutes de façon complète. Mais le plus important, déjà, c'est de venir dans la vie avec l'intention de bénéficier du savoir pour accéder à la récompense dans la soutien au caractère, c'est de l'idée de l'ignorance, augmenter sa part de science pour améliorer sa part de pratique. Deuxièmement, dans la vie, il convient d'être attentif à ce qui est dit et de ne donc pas se livrer aux conversations de bord avec les voisins ou de faire toutes choses qui portent atteinte au bon suivi de ce qui est dit durant la vie. Voici ce que nous voulons évoquer comme étant le plus important. Cependant, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dans ce sens dans la liste des types de savoir.
Que dites-vous de l'apprentissage sur Internet? Et comment reconnaître une personne digne de confiance chez qui on peut apprendre? Peut-on apprendre sans l'aide de quelqu'un?
Premièrement, l'apprentissage sur Internet est exactement comme l'apprentissage sans Internet, dans un certain sens. Dans le sens où vous pouvez connaître qui dispense le cours et quel est le cours dispensé et quels sont les rendez-vous et ainsi de suite. Donc, si vous apprenez en ligne chez un savant que vous connaissez, de sorte que vous avez par exemple, une connexion qui est bonne et donc qui ne s'entrecoupe pas, si bien que vous suivez ce qui est dit de vous en vous, cela est absolument permis et pratiqué par les savants aujourd'hui. Beaucoup de savants aujourd'hui, lorsqu'ils font des cours, les diffusent aussi en direct à travers Internet. Par exemple, le Cheikh Abdelmansour Al-Abbas et son fils, Cheikh Abdelazar Al-Abbas, les cours sont dispensés en direct. Si vous voulez suivre leurs cours, vous entrez sur Internet, vous écrivez en arabe, d'Arc Cheikh Abdelmansour Al-Abbas. À l'heure de Maghrib, à Médine, après Maghrib, vous entrez, vous suivez le cours en direct. Donc cela est absolument permis. Mais les savants, ce qu'ils font pour différencier le cours en ligne et le cours terre sur terre, si on peut dire ça comme ça, c'est que lorsque, par exemple, ils veulent donner la permission à l'étudiant de transmettre ce qu'il a pris d'eux, ils ne donnent pas à ceux qui ont suivi les cours en ligne. Parce qu'il est possible qu'il y ait des interférences ou bien qu'ils entrecoupent les cours ou des choses du genre qui font qu'il n'y ait pas vraiment une confiance absolue dans le fait que l'étudiant ait suivi le cours de bout en bout ou pas. Non. Maintenant, comment reconnaître une personne digne de confiance? Ya Akhi. Celui qui recherche la vérité, sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala lui indique la vérité. Si tu recherches quelqu'un qui peut t'enseigner ta religion et qui soit digne de confiance, et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'indiquer cette personne, tu vas voir en celui qui est digne de confiance les signes qu'il mérite la confiance des musulmans. Tu vas voir dans ce qu'il dit les signes qu'il a été éduqué dans la voie du savoir. Et tu vas voir dans sa façon de vivre qu'il a été imprégné de ce savoir et qu'il peut le transmettre sans trahison. Non, ceci, j'ai aussi entendu le chef. Fahri Al-Husseini le dire que quiconque recherche les hommes de science, Allah subhanahu wa ta'ala lui indique les hommes de science. Car, de même que la vérité est évidente à quiconque la médite, de même, les gens de science sont évidents à quiconque la recherche et réfléchit sur les gens qui prétendent tous être des gens dignes de confiance. Peut-on apprendre sans l'aide de quelqu'un? Non. Non.
Qu'est-ce que la science a dit? L'islam fait la différence entre la science antique et la science primitive. L'école occidentale était une science antique. Pourquoi?
La personne demande qu'est-ce que la science en islam? Premier. Qu'est-ce que la... Non. Qu'est-ce que la science en islam? Si la question c'est qu'est-ce que l'islam considère comme étant savoir, c'est une question. Différente de la question, qu'est-ce que le savoir islamique qui est celui qui est hérité du Coran et de la Sunna? Et de ce qui s'en est détaché, comme les sciences qui ont été déduites du Coran et de la Sunna par les sciences en osmosis, pareil de cette prière au nom du Shadith, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que l'islam considère comme science? Il y a un grand débat entre les savants. Qu'est-ce qui est science, qu'est-ce qui n'est pas science? Non, ce n'est pas le lieu de détailler cela ici, et je n'ai même pas tous les détails à ce sujet. Mais ce qu'on peut savoir déjà, c'est que tout ce qui est appris, tout ce qui est sujet de connaissance, est une science. Maintenant, est-ce que l'islam est la différence entre science utile et science non utile? Non. La science utile, soit qu'elle soit religieuse, comme la science islamique, elle est complètement utile. Et la science inutile est forcément non religieuse. Et ça ne veut pas dire que toute science qui n'est pas religieuse est inutile. Car il y a des sciences qui ne sont pas religieuses, qui sont utiles et même obligatoires, telles que nous l'avons montré. Il y a des choses qui sont non seulement inutiles, mais aussi nuisibles et haram. Comme l'apprentissage, par exemple, de la magie. Même si on ne pratique pas la magie. Ensuite, il y a des sciences qui ne sont pas forcément interdites, mais qui sont inutiles. Par exemple, le fait que les Arabes avaient la tradition d'apprendre les ascendants de leurs parents, apprendre que tel est fils de tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel, jusqu'à Ibrahim a.s. Ceci est une science inutile, telle que les savants l'ont indiqué. De même que l'apprentissage d'une science comme la marche, comme le marche, la syntaxe, au-delà de ce qui permet de bien parler et de bien comprendre ce qu'on lit. Maintenant, est-ce que l'école occidentale est utile ou pas utile? C'est une question qui me dépasse. Non. Parce que justement, c'est une question qui est très sensible de nos temps. Et les savants se sont prononcés là-dessus. Et déjà que je comprends cette question dans le sens, est-ce que l'école qu'on fait aujourd'hui dans les écoles chez nous est utile ou inutile? C'est dans ce sens que je comprends. Sinon, dire école occidentale, c'est une erreur. Ce n'est pas une école occidentale, hein. Ce n'est pas les occidentaux qui ont inventé la physique, la chimie, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ce n'est pas une science occidentale. Je vais parler de l'école comme étant chez nous. Non. Quant à ces sciences qui sont enseignées, elles sont utiles. Maintenant, est-ce que l'école telle que nous la faisons chez nous, et qui est objet de disputes aujourd'hui au milieu des gens, est-ce qu'il y a plus d'intérêt à l'étudier ou pas à l'étudier? J'ai mon point de vue là-dessus, mais je ne suis pas savant pour faire une fatwa. Les savants sont divergés là-dessus, sur le fait que les élèves, que les musulmans qui sont en pays non musulmans à l'école ou pas, il y a différentes divergences entre les savants. J'ai mon point de vue là-dessus, je ne suis pas savant pour faire une fatwa. Allah. Et une question en anglais, je suis le pire des anglophones. Someone who just joined Islam, which aspect of science is advisable for him to begin first? Is this the question? Qui a posé la question? D'abord, je vais savoir si je fais le bon en français parce que je ne suis pas un bon francophone, je ne suis pas un bon anglophone. Quelqu'un qui vient de s'islamiser, quelle branche du savoir on peut lui conseiller comme commencement? Les éléments de réponse que nous avons apportés sur la méthode et par quoi il faut commencer la science sont valables pour celui qui vient de s'islamiser, comme pour celui qui est musulman, même de naissance, mais qui n'a pas encore commencé à apprendre. C'est-à-dire que tu dois commencer par le tawhid et la foi, et ensuite par les éléments de base de l'adoration comme les ablutions et la prière, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, apprendre les choses qui lui sont obligatoires particulièrement et pas à tous les musulmans en général. Par exemple, s'il est quelqu'un de riche et qui doit verser sa zakat, il est obligatoire d'apprendre les règles de la zakat. S'il est quelqu'un de riche et qui doit effectuer le pèlerinage, il est obligatoire d'apprendre les règles du pèlerinage, ainsi de suite, pour voir. Qu'Allah nous accorde le bénéfice de tout ce que nous avons dit, entendu et nous pardonne pour nos péchés graves de vie. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبينا رحمة الله وبركاته.